Vous écoutez
RMC.
Il est 6h sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à tous.
5-7, le Morning RMC.
Et c'est l'heure du journal de Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Élise et bonjour Mathieu.
À la une, c'est parti pour un quatrième jour consécutif de vigilance rouge canicule.
Une nouvelle journée historiquement chaude. Hier, nous serons en direct d'un parc parisien resté ouvert toute la nuit et on fera le point dans les hôpitaux qui voient une première vague de patients déshydratés. Les masculinistes, nouveau terrorisme entre misogynisme et actions violentes, rapport accablant du Sénat que RMC vous dévoile ce matin. Et Didier Deschamps, endeuillé, quitte les États-Unis après la mort de sa mère. Les Bleus solidaires autour du sélectionneur.
Et la nuit qui n'est plus un refuge contre la canicule.
35 à Biscarrosse, 32 à La Rochelle ou à Boulogne-sur-Mer. Ce que je vous donne là, ce sont les températures ressenties en pleine nuit. Cette nuit, dans le sillage d'une journée d'hier, la plus chaude jamais enregistrée en France, à Paris, on ressentait 31 degrés encore à 4 heures du matin. La capitale qui a laissé ses parcs ouverts sans interruption. Cassandre Bro, vous êtes en direct des buts de Chaumont pour RMC, où les Parisiens ont veillé tard pour chercher un peu de fraîcheur.
Oui, ils sont nombreux à avoir fait le choix de venir se réfugier ici, un peu au frais. Gabin est arrivé vers 2h du matin. Il était déjà là hier. Je dors mieux ici que dans mon lit, explique ce jeune de 20 ans. Pour lui, impossible de faire autrement, sans climatisation ni ventilateur dans son appartement. Installé sur l'herbe, il va rester jusqu'à ce que le soleil se lève. D'autres sont des habitants du quartier. C'est le cas de Khaled. Il a 43 ans, casquette sur la tête et chemise grande ouverte. Il vient profiter des températures à la baisse.
Je cherche la fraîcheur parce qu'il fait bien chaud dans nos appartements et c'est le meilleur moyen de se rafraîchir, c'est dans le parc parce qu'il fait vraiment frais. Il y a pas mal de personnes, des couples, des amis entre eux qui se baladent, qui se posent sur les pelouses, quoi, qui dorment un peu. C'est ça en fait, on vient chercher l'air au but de chemin.
Et certains viennent effectivement dormir directement sur la pelouse qui garde la fraîcheur. D'autres ont prévu des draps et de quoi être bien installés. C'est le cas d'un groupe de 4 copains. Ils ont la vingtaine et selon eux, passer la nuit ici dans ce parc, ça va devenir leur nouvelle habitude pendant la canicule.
Cassandre Bran en direct des buts de Chaumont à Paris. Vague d'incendie en France également. 2 feux encore actifs hier soir près de Cholet dans le Maine-et-Loire et sur la commune de Boussès dans le Lot-et-Garonne. À chaque fois, près de 100 hectares brûlés. D'autres départs de feux ont été enregistrés dans le Finistère ou encore en Côte d'Or.
Mobilisation générale dans les hôpitaux également.
Le niveau 2 sur 4 du plan Orsan activé par le gouvernement hier, ça signifie un renforcement des effectifs et en dernier recours, la déprogrammation de certaines opérations. Ce n'est qu'un début, mais la vague de patients arrive déjà dans les services, Solène Leroux.
Oui, au SAMU, le 15, plus 30 à 40% d'appels à 3 dans l'Aube, selon BFM TV, plus 20% à La Roche-sur-Yon, en Vendée ou encore à Toulouse, et même jusqu'à 50% d'appels en plus dans les SAMU franciliens. Ceux qui appellent sont bien souvent déshydratés, pris de malaise, de vertige, des personnes fragiles, malades, âgées surtout, mais aussi des profils plus jeunes, ce qui fait dire à une urgentiste assez ironique, à 30 ans, c'est malheureux de ne pas savoir qu'il faut s'hydrater et rester au frais quand c'est possible, bien sûr. Un appel à la responsabilité pour que les urgences ne soient pas débordées d'ici la fin de la semaine, car les soignants le confirment, plus la canicule dure, plus les corps fatiguent.
Et vous continuez à témoigner ce matin de la chaleur près de chez vous, bien sûr. Témoignez particulièrement si vous travaillez à l'hôpital, les personnels soignants au 32-16, les corps ont chaud, les urgences saturent, les déshydratations, les malaises. Venez nous raconter ce que vous vivez la journée et la nuit. À l'hôpital, bien sûr, au 32-16.
Et parfois, c'est notre logement qui se transforme en four. C'est ce matin, en pleine canicule, que le Conseil des ministres examine la réforme des règles du DPE. Ah, un assouplissement des règles de diagnostic énergétique. Concrètement, les propriétaires de passoires thermiques pourraient finalement louer, à condition de faire des travaux dans les 3 à 5 ans. Pacte gagnant-gagnant, dit le gouvernement. Tous perdants, selon les oppositions, Sonia Gobry.
Le RN salue la mesure et serait même allé plus loin en supprimant toutes les interdictions de location en cas de mauvais DPE. Et ce n'est pas la canicule qui fera changer d'avis le député Thomas Ménager.
Mieux avoir quelqu'un qui est dans une passoire, une bouilloire thermique éventuellement, plutôt qu'une personne qui est à la rue, qui n'arrive pas à se loger.
L'écologiste Cyril Châtelain n'est pas de cet avis.
Il faut des logements qui soient habitables toute l'année. Une passoire énergétique sur deux est mise en location par des ménages qui font partie des ménages aisés. On a besoin de ces dates très fermes d'interdiction de mise à la location pour forcer les propriétaires qui ont les moyens d'investir dans le logement. Parce que là, finalement, en assouplissant, on leur dit « vous n'avez pas respecté la loi, écoutez, ce n'est pas bien grave ».
L'assouplissement des règles pour louer des logements classés F ou G, ce n'est pas l'idéal non plus pour la députée UDI et ex-ministre du Logement, Valérie Létard.
Je suis d'accord avec la gauche sur le fait qu'on doit être exigeant sur l'accompagnement des changements climatiques. Après, il faut faire œuvre de pragmatisme.
C'est aussi l'argument du gouvernement qui martèle que cet assouplissement permettrait de maintenir ou remettre sur le marché locatif environ 700 000 logements d'ici à 2028.
Sonia Gobry du service politique de RMC.
Il est 6h06 sur RMC. La haine des femmes est une forme de terrorisme.
C'est le constat, sans appel, d'un rapport du Sénat. RMC vous le dévoile ce matin. Louis Salé, c'est vous qui l'avez eu entre les mains. Ses auteurs décrivent le phénomène masculiniste et des individus radicalisés au même titre que des djihadistes.
Ils ont entre 15 et 20 ans. Sur TikTok, ils prônent un idéal masculin viril, parfois violent. Sur Telegram, ils insultent des femmes et réfléchissent à des actions. Coup de poing, Fouad Sanadi suit ces jeunes au sein d'une association bordelaise et reçoit leurs parents démunis.
La première réaction des parents, c'est d'abord ce sentiment de culpabilité de ne pas avoir vu, en tout cas les choses s'envenimer. On a un cas qui était très grave où cette maman-là a pris le téléphone à son enfant et s'est retrouvée violentée par son enfant. Et c'est ce qui a déclenché d'ailleurs le signalement.
Un signalement réalisé auprès de la préfecture. Au niveau national, les services du renseignement surveillent une dizaine d'individus radicalisés de moins de 21 ans. Des hommes plus âgés aussi sont séduits par les discours masculinistes et se radicalisent par exemple derrière les barreaux. À Toulouse, Tristan Renard aide des agents pénitentiaires à les repérer.
Ça peut être des personnes détenues, condamnées pour des faits de violence conjugale, qui vont développer des idées profondément misogynes et avec des projections de passage à l'acte sur des femmes.
Le rapport recommande de former des référents dans la santé, la justice, l'éducation, capables de signaler les situations inquiétantes.
Et Laurence Rossignol fait partie des rapporteurs du Sénat sur cette question du masculinisme. Elle sera en direct avec Apolline à 7h10 tout à l'heure. Est-ce que vous voyez, vous, l'émergence de ce mouvement masculiniste, la dérive qui va avec dans votre entourage, dans le discours, peut-être que vous pouvez entendre chez vos proches, vos ados notamment, faut-il craindre une multiplication des passages à l'acte? Vous témoignez ce matin au 32-16.
À 6h08 sur RMC, on s'envole pour les États-Unis.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Les derniers résultats du mondial avec, vous l'avez vécu sur RMC, la qualification de la Colombie grâce à sa victoire 1-0 contre la République démocratique du Congo. La Croatie ne s'est pas encore qualifiée mais a éliminé le Panama en le battant 1-0. L'Angleterre accrochée 0-0 par le Ghana et puis Cristiano Ronaldo qui a tapé du poing sur la table hier, doublé pour une victoire 5-0 contre l'Ouzbékistan. Du côté des Bleus, terrible nouvelle. Hier, Didier Deschamps, endeuillé par la perte de sa mère. À 3 jours du troisième match de poule des Bleus, le sélectionneur a dû partir, Fabrice Hawkins.
Didier Deschamps a quitté les États-Unis hier. Il est rentré en France au plus près de sa famille pour les obsèques de sa mère. Avant de partir, il a eu quelques mots pour ses joueurs. D'abord pour partager sa peine, ensuite pour demander à ses troupes d'être performantes et de rester concentrées pour battre la Norvège. Après cette prise de parole, les internationaux ont longuement échangé entre eux, souvent en petits groupes et toujours avec beaucoup de pudeur. Ils se sont promis de gagner leur dernier match de poule. Le groupe France, qui est très ému, a aussi observé une minute de silence hier avant l'entraînement. Guy Stéphan, l'adjoint de Didier Deschamps, est en charge de l'équipe de France jusqu'à nouvel ordre. Ce n'est pas la première fois pour le Breton. Stéphan avait déjà assuré l'intérim en juin 2022 quand Didier Deschamps avait perdu son père. Un autre mauvais souvenir pour les Bleus qui s'était soldé par une défaite 2-1 contre le Danemark en Ligue des Nations.
Fabrice Hawkins, l'un des envoyés spéciaux de RMC auprès de l'équipe de France. Grosse journée à 6 matchs aujourd'hui au Mondial et la nuit prochaine également, et notamment cette Écosse-Brésil et ce Maroc-Haïti.
Merci beaucoup Victor Pourchet. Tiens, c'est le moment de jouer pour gagner votre prime de match.
La prime qui s'élève désormais à 40 000 euros. Je vous le rappelle, hein,
Colombiens ont marqué.
Exactement, on rajoute 500 euros à chaque but, puisqu'on est très très généreux. Ce montant de 40 000 euros, vous le retenez bien, puisqu'à tout moment, on peut vous appeler et il faudra donner le montant exact de la prime pour pouvoir la remporter. C'est simple, plus il y a de buts, plus vous écoutez RMC, plus vous avez de chances de gagner cet argent. Vous envoyez dès maintenant but au 7-32-16, but au 7-32-16. Vous avez 10 minutes pour vous inscrire, il est 6h10. Vous avez donc jusqu'à 6h20. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Et Gaëtan est en ligne avec nous depuis la Seine-Maritime, que tu connais un peu, je crois, Élise.
Oui, pas mal, Saint-Léger du Bourdonnais. Bonjour Gaëtan. Oui.
Bonjour Élise, bonjour Mathieu. Alors déjà, je voulais dire à Élise qu'il y a bel et bien ce problème sur le pont Mathilde, il y a une bulle de goudron qui s'est apparue.
Merci Gaëtan.
Ah oui, et puis le pont Mathilde, je le connais bien en plus.
Après, moi, je voulais réagir sur les grosses chaleurs. En tant que boulanger, je peux dire que j'en prends pour mon grade. Aujourd'hui, je ne travaille pas, j'ai la chance. En plus, c'est bien, c'est tant mieux, il comptait faire 39, donc j'ai de la chance. Lundi, on a pris les températures pas loin de la sortie, c'était 41 degrés. C'est même pas près des fours.
Vous hydratez, Gaëtan, hein, vous buvez beaucoup d'eau, j'imagine. Il y a des métiers comme les boulangers, les couvreurs, faut faire attention. Hein.
Dimanche, j'ai commencé à 2h20, j'ai travaillé 10h, j'ai bu plus de 3 litres d'eau à peu près en une matinée. Et même encore hier et lundi, j'ai bu 3 litres d'eau en une matinée. Quoi. J'ai jamais bu autant d'eau. Je rentre chez moi parce que je suis en nage, je suis obligé d'aller prendre une douche directement pour enlever toute la sueur forcément.
Vous, Gaëtan, on va remercier et saluer quand même tous les boulangers qui nous écoutent, je sais qu'ils sont nombreux. Et ça doit être particulièrement difficile dans les 58 départements concernés par la vigilance rouge canicule. Merci Gaëtan de votre appel normand ce matin au 32-16, il est 6h12.
Gaëtan qui nous l'a confirmé, hein, ce phénomène auquel on s'intéresse ce matin dans le choix de la rédaction. Avec vous, Martin Lange, bonjour.
Bonjour Élise, bonjour Mathieu, bonjour à tous.
C'est l'une des conséquences de cet épisode caniculaire qui inquiète beaucoup les collectivités, les routes qui fondent, même en Normandie.
Oui, certains départements ont même dû fermer des routes, hein, car le bitume s'accroche aux roues des automobilistes. Ça s'appelle le ressuage et il existe un remède, répandre du lait de chaux.
A tout de suite sur RMC et RMC Story.
5h-7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 6h16 sur RMC, RMC Story, si on gagne un peu d'argent.
Bah oui, parce qu'il reste 4 minutes pour s'inscrire et tenter de remporter la prime de match qui est pour le moment de 40 000 euros. Retenez bien le montant de la prime, vous envoyez dès maintenant but au 7-32-16, but au 7-32-16.
RMC, le choix de la rédaction.
Et une alerte sur nos routes ce matin face à la canicule qui se prolonge. 58 départements en vigilance rouge, des températures qui vont encore allègrement dépasser les 40 degrés. C'est tout le réseau qui est sous tension.
Bonjour Martin Lange.
Bonjour Élise, bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Martin, dans l'Est, le département de Meurthe-et-Moselle a même fermé une route départementale qui fondait, un phénomène connu et surveillé de très près par ses collectivités, Martin.
Oui Élise, ça s'appelle le ressuage. Avec les très fortes chaleurs, le bitume ramollit et remonte à la surface. J'ai suivi Christophe Devoile, il est directeur adjoint des routes départementales dans le Maine-et-Loire. Et depuis le début de la canicule, il est confronté à ce phénomène, une sorte d'effet chewing-gum, écoutez.
Le bitume va se coller aux pneus et donc va partir de la route et créer des dégradations. C'est comme un nid de poule qui s'étale, c'est-à-dire que les pneus ont embarqué le bitume et le gravillon de la route et ça crée des trous, alors pas très profonds, mais qui sont inconfortables pour les usagers, qui posent des questions de sécurité.
Là, avec la vague de chaleur qu'on connaît, des zones comme ça, avec des dégâts comme ça, vous en avez beaucoup.
Effectivement, là, on est dans une vague exceptionnelle et qui dure, c'est surtout ça. Donc les chaussées ne refroidissent plus la nuit et donc on a plusieurs dizaines de kilomètres qui sont concernés par ces ressuages.
240 km hein, rien que dans le Maine-et-Loire et comme en Meurthe-et-Moselle, face à cette canicule exceptionnelle, le département ne s'interdit pas de fermer un ou plusieurs axes.
Alors, est-ce qu'il y a des solutions pour prévenir ces dégradations, Martin ?
Eh bien oui, il y en a une, le lait de chaux. D'ailleurs, le camion qui l'applique dans le Maine-et-Loire tourne à plein régime, exemple à la Daguenière sur les bords de Loire.
Là, en anticipation, on applique ce qu'on appelle du lait de chaux. Donc, c'est un mélange de chaux avec de l'eau. Comme si on avait fait couler du lait sur la route. Il donne une couleur blanche à la route. Donc, le blanc va permettre de réfléchir les rayons du soleil pour que la route monte moins vite en température. Et la chaux va permettre de redonner de l'adhérence au bitume pour garantir la sécurité des usagers.
Ça a un coût, ça, pour la collectivité, ce lait de chaux ?
C'est des matériaux qui sont peu chers. On parle de quelques milliers d'euros, là où refaire une chaussée coûte plusieurs centaines de milliers d'euros.
Et de nombreuses collectivités ont adopté ce dispositif, l'Ille-et-Vilaine, le Rhône, les Vosges, le Doubs ou encore le Puy-de-Dôme. Dans le Maine-et-Loire, le département a même aménagé son propre camion pour pouvoir faire face à ces épisodes qui se multiplient.
Mais est-ce que justement, face à la multiplication de ces épisodes, Martin, c'est la bonne solution ?
Vous l'avez entendu, Élise, c'est surtout la solution la moins coûteuse. L'idéal serait de refaire toutes les routes, non pas avec de l'enduit, ce mélange de bitume et de gravier, mais avec de l'enrobé. Le problème, c'est qu'un kilomètre d'enrobé coûte 5 fois plus cher que l'enduit. Par ailleurs, aujourd'hui, le revêtement miracle n'a pas encore été découvert. David Zambon est directeur général adjoint du CEREMA. Il accompagne les collectivités face au changement climatique.
Des routes dans des pays où il y a des fortes chaleurs, il en existe, et des routes qui tiennent. Le problème ou la difficulté dans un pays comme la France, qui est un pays tempéré, ça veut dire qu'on a des fortes chaleurs, mais on peut avoir aussi des températures très basses. C'est que les bitumes, quand ils sont trop durs, l'hiver, si ça gèle, ils vont se fissurer, ils vont se casser, un peu comme du verre. Et donc c'est tout un compromis. On va probablement, dans les années futures, prendre comme température de référence des températures plus élevées que celles qu'on a prises par le passé.
Selon lui, refaire le million de kilomètres de routes françaises est de toute façon inenvisageable. Il faudra apprendre l'été à vivre comme l'hiver, avec des routes parfois fermées et à la place des saleuses, des camions qui répandent du lait de chaux.
Décidément, merci Martin. Et décidément, on a visé juste. Vous êtes nombreux à témoigner ce matin, à réagir, comme Christophe qui nous appelle de Saône-et-Loire ce matin. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour à tous.
C'est quelque chose que vous constatez là en ce moment avec les fortes températures, la route qui fond.
Ah oui, là, en rentrant avant-hier, la route était complètement fondue, toute glissante, le goudron, on ne voyait plus les graviers en fait, le noir était remonté complètement en surface.
Et c'est hyper dangereux à moto notamment, Christophe.
Oui, tout à fait, moi je suis motard et donc effectivement c'était pas évident du tout.
Mais alors on roule comment ? Pardonnez-moi Christophe, parce que moi je n'étais pas familier au risque carrément de voir un engin glisser sur ce bitume fondu. On se comporte comme sur du verglas, en fait, Christophe.
Exactement, pareil. Il faut ralentir énormément, et puis...
pas d'à-coup.
Et puis, voilà, être très prudent, pas d'à-coup, être très prudent.
Ouais.
Alors, et surtout être très méfiant, parce que c'est des plaques qui apparaissent, qui ne sont pas partout, donc il faut être très prudent pour bien les surveiller au loin.
Christophe, à moto, en Saône-et-Loire, avec ses routes qui surchauffent, évidemment, il fait encore plus chaud sur la route. Merci beaucoup Christophe de votre appel au 32-16 ce matin. Il est 6h20. Les grands titres de l'actualité ce matin, Élise.
La France au ralenti, écrasée par cette chaleur de plomb, et la journée d'hier restera dans les annales comme la plus chaude depuis le début des relevés, avec des conséquences très concrètes, notamment cette panne d'électricité massive dans le Finistère. 70 000 foyers sont privés d'électricité. Sébastien Lecornu annonce qu'une loi intégrale sera bien examinée à la rentrée à l'Assemblée, loi sur les violences faites aux femmes et aux enfants dans le sillage de l'affaire Liana. Et puis Didier Deschamps, endeuillé, qui doit rentrer en France pour enterrer sa mère. Le sélectionneur des Bleus ne sera pas présent vendredi pour le match de l'équipe de France face à la Norvège.
Il est 6h21. Et le docteur du morning nous a rejoint. Aurel Gage, bonjour.
Bonjour.
La consultation gratuite dans un instant.
Quelle est la meilleure boisson pour s'hydrater ?
Ah, on vient de réhydrater les routes au lait de chaud. On va passer à l'humain avec le médecin. Il est 6h21.
Jusqu'à 7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 6h25 sur RMC et RMC Story.
RMC, consultation gratuite.
Et dans cette période caniculaire, tout le monde cherche à se désaltérer. Mais alors, est-ce que toutes les boissons se valent, Aurel Gage, pour s'hydrater ? Eau pétillante, soda, café, bière, on va faire le point avec vous. Est-ce que tout ça, ça se vaut ou pas ?
Alors, pour ça, on va utiliser un indice qu'on appelle l'indice d'hydratation. L'indice d'hydratation, qu'est-ce que c'est ? On fait boire à des gens les différents liquides, et puis on regarde combien ils urinent à la fin pour voir qu'est-ce qu'ils arrivent le mieux à garder. Bon, d'après vous, quelle est la meilleure boisson pour l'hydratation ?
L'eau.
Eh ben, en fait, oui, l'eau, c'est très bien, mais il y a un peu mieux. Il y a les boissons dites de réhydratation orale, celles que vous donnez souvent à vos enfants, vous savez, quand ils ont de la diarrhée, puisque ça peut faire que les gens vous perdent un peu plus d'eau, les petits sachets en poudre. Et puis, vous allez avoir aussi les boissons des sportifs, les boissons où, justement, on va mettre un tout petit peu plus de sel, un peu de sucre, etc. C'est un meilleur indice d'hydratation. Mais bon, dans la vie de tous les jours, vous n'allez pas utiliser ni une solution de réhydratation orale, ni ni une boisson du sportif, parce que c'est quand même très sucré. Bon, alors par contre, dans les boissons classiques, la meilleure, ça reste l'eau. Donc notre gold standard, c'est-à-dire ce à quoi on a comparé l'indice d'hydratation, c'était l'eau, ce qu'on appelle le gold standard. C'est vraiment l'indice de référence si on prend l'eau. Eh ben, l'eau pétillante, pareil.
Exactement. Il y a pas un peu plus salée. De sel, ouais.
Alors oui, il y a certaines eaux pétillantes qui sont un peu plus salées, donc faut faire attention pour certaines personnes qui ont des problèmes cardiaques, mais c'est pas suffisant pour changer l'indice d'hydratation. Donc vous urinerez autant avec de l'eau pétillante. La question qu'on se posait, c'était est-ce que ça perturbe un petit peu le transit intestinal? Est-ce que ça perturbe la vidange gastrique? Non. Donc au contraire, l'eau pétillante, c'est même très bien, et surtout ça peut augmenter l'appétence pour certaines personnes. Moi personnellement, je préfère boire de l'eau pétillante à l'eau, et vous avez pas mal de personnes âgées où c'est pareil. Donc quand vous ressentez pas la soif, se forcer à boire, eh bien si ça vous préférez boire de l'eau pétillante, allez-y. Le soda c'est plus compliqué, parce que le soda, vous allez avoir le soda classique où là il y a du fructose. Donc le fructose, c'est vraiment mauvais à court terme sur les reins en période de chaleur, donc non. Par contre, le soda allégé, le soda sans sucre, sur une période aiguë, il n'y a pas de démonstration que vous allez avoir des problèmes rénaux. À long terme, oui, mais sur une vague de chaleur, si c'est ce qu'il vous faut pour boire, allez-y.
Bon, on boit quoi, de toute façon. Et alors, pardon, on va passer aux choses qui fâchent, la bière.
Ah, j'étais sûr quand vous m'avez dit on va passer aux choses qui fâchent. Eh ben, si je suis obligé à vous répondre, je vous dirais ne buvez pas d'alcool. Sauf que ce qui est assez intéressant, c'est quand on s'intéresse aux différents alcools, en fait, les pires, souvent on dit la bière, parce que la bière, ça fait beaucoup uriner, mais c'est lié à l'alcool, et en fait, c'est lié au pourcentage d'alcool. C'est-à-dire que, la bière, c'est en général 5-6%, alors que les spiritueux, c'est beaucoup plus. Le pire, c'est les spiritueux. Donc, si à un moment, vous mettez un couteau sous la gorge, vous me dites, y a pas le choix, j'ai envie de boire de l'alcool, qu'est-ce que je dois boire? Celui où il y a le pourcentage d'alcool le moindre.
Donc la bière.
Plus que le whisky en tout cas.
Voilà, plus que le whisky surtout. Quand même.
Mais toujours avec
modération. Voilà, merci.
Thé café qui sont des diurétiques, thé café on peut ou...
Alors thé café, c'est un diurétique, ça fait uriner, mais ça ne déshydrate pas. C'est-à-dire si c'est ce qu'il vous faut pour boire, allez-y. Par contre, il faut que vous ayez conscience d'une chose, c'est que le café, ça va faire un petit peu augmenter la thermogenèse, la création de température. Donc le café, c'est peut-être celui le plus à éviter.
Ok. C'est complet comme ça.
Ouais, c'est complet.
C'est que on sait ce qu'on boit, c'est ce que je vous sers. On va voir ce qu'on propose à Mickaël qui est à Digne-les-Bains. Ça doit être beau en ce moment, dans les Alpes de Haute-Provence. Bonjour Mickaël.
Oui, bonjour à toute l'équipe.
Ça va Mickaël ce matin?
Très bien, merci.
Bon, ça ira encore mieux si vous gagnez le mot caché. Est-ce que vous l'avez identifié?
Oui, je pense. C'est le mot assaut du verbe assauter.
Exactement, Mickaël, bravo. Vous remportez
une fois. Hein.
Oui, une fois, mais un moment stratégique voilà. Et de manière subtile. Bravo, Mickaël. Vous gagnez une lampe design Minaem de Lexon qu'on vous envoie dans les Alpes de Haute-Provence.
Tout à fait, super.
Allez. Félicitations, Mickaël. Il est 6h30 sur RMC.
5-7, le Morning RMC.
Et c'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous les deux, bonjour à tous.
Et à la une, les nombreuses conséquences de la chaleur.
Les incendies, de nombreux départs de feu ces dernières heures. Une centaine d'hectares sont partis en fumée dans le Maine-et-Loire et dans le Lot-et-Garonne. Nous serons sur place d'ailleurs en direct dès le début du journal. Les noyades également, une quarantaine de morts quand même en une semaine. Un drame évité dans le Pas-de-Calais, on va vous le raconter. Et puis le début ce mercredi, des derniers matchs de poule déjà à la Coupe du Monde de football, avec peut-être bien le grand retour de Neymar au Brésil.
Et on déplore donc de nombreux départs de feu partout en France.
Alors ce ne sont pas encore de gros incendies comme ceux qu'on peut voir en été, mais on a quand même 35 départements en vigilance élevée pour les feux de forêt. Et les pompiers sont appelés donc pour tout un tas de départs de feu dans la Creuse, dans la Vienne. Les deux plus importants, c'est dans le Maine-et-Loire et dans le Lot-et-Garonne. Une centaine d'hectares ont brûlé ces dernières heures sur ces deux feux. Marion Gauthier, vous venez justement d'arriver sur le feu de Boussès dans le Lot-et-Garonne et vous confirmez en direct ce matin, ce feu n'est pas encore maîtrisé.
En tout cas, des volutes de fumée s'élèvent encore. Il faut traverser un épais nuage gris pour arriver à Boussès. Des deux côtés de la route, le sol est brûlé, noirci. Les arbres sont encore debout, mais des camions de pompiers sont encore à l'œuvre. 180 sapeurs-pompiers et 80 engins sont toujours sur place. Deux Canadair et 3 avions d'âge ont été mobilisés. Les habitants appelés à éviter le secteur. Au dernier pointage, la préfecture indiquait que 87 hectares avaient été parcourus. Le feu a été repéré hier après-midi, mais la zone est difficile d'accès. Il y a beaucoup de massifs forestiers et très peu de pistes d'accès pour les véhicules. Un bulldozer a été déployé pour déboiser et permettre aux pompiers d'intervenir au plus près de l'incendie.
Marion Gauthier, en direct donc de ce feu dans le Lot-et-Garonne ce matin pour RMC. La nuit a encore été épouvantable, nous dit Géraldine ce matin. Quasiment 31 degrés à Biscarrosse, 29 à La Rochelle et Poitiers. On bat des records même la nuit au lendemain de la plus chaude journée de l'histoire en France. 40,5 degrés à Bordeaux, 44,7 aux Herbiers, 339 records de chaleur battus ou égalés, dont 135 records absolue. Alors pour se protéger de cette fournaise, il n'y a pas d'autre mot, on se réfugie dans les centres commerciaux, dans les magasins qui ont la climatisation, dans les cinémas également qui cartonnent en ce moment, c'est ce que nous dit Vincent Chevalier, le correspondant d'RMC à Lyon.
La salle 9 au troisième en E8 pour le fauteuil.
40 degrés dehors, 15 de moins à l'intérieur du pâté Bellecour. Lila et Léane respirent enfin.
Un petit peu mieux, oui, quand même.
C'est net d'être dans la salle encore plus climatisée.
Dans les salles, effectivement, 24 degrés en moyenne, bien installé pour voir.
Toy Story 5.
Léandre, 12 ans, apprécie cet îlot de fraîcheur.
Il fait bien meilleur, la clim est bien meilleure. Et nous, on a la clim chez nous, ça va, mais ici, c'est mieux.
D'autres n'ont pas cette chance, alors le cinéma devient un refuge, quelques rangées. Et derrière, il y a Cardine avec ses deux enfants ou Martine, une retraitée de 72 ans.
À l'école, il faisait 35 degrés. On nous a vivement conseillé de les récupérer cet après-midi.
Quand il fait chaud comme ça, je viens plusieurs fois par semaine, oui.
Avec la chaleur, la clim devient un argument commercial. Le cinéma comédien, par exemple, aménage ses horaires dès aujourd'hui. Colline David, la directrice adjointe.
Normalement, nous, on ouvre à partir de 13h. On s'est décidé sur ces séances du matin. On ouvrira dès 10h30. Normalement, c'était plutôt le week-end. On était ouvert en matinée et puis pendant la fête du cinéma.
Une fête du cinéma qui tombe à point nommé. Dès dimanche et pendant 4 jours, la séance sera à 5 euros.
Et tiens, venez nous dire, c'est quoi votre solution fraîcheur en ce moment ? Est-ce que c'est le cinéma ? Est-ce que, tiens, il y a le début des soldes, c'est peut-être les centres commerciaux. Où est-ce que vous allez chercher un peu de fraîcheur ? On va parler de l'état de l'hôpital avec la chaleur en ce moment, dans un instant avec Julien. Mais venez nous dire un petit peu comment vous vous mettez au frais, notamment sur le WhatsApp RMC.
On déplore encore des noyades mortelles. Deux hier dans le lac d'Annecy, par exemple. Une quarantaine en une semaine, essentiellement des jeunes, déplore le Premier ministre Sébastien Lecornu. Et alors au moment où les premières tensions apparaissent dans les hôpitaux, eh bien le bilan aurait pu être encore plus dramatique. À Berck-sur-Mer, écoutez, dans le Pas-de-Calais, une soixantaine de personnes se sont laissées surprendre à Lucas Lebert par la marée et ont dû être secourues.
Oui, ils se sont fait piéger par une bâche, aussi appelée baïne. Une grande dune de sable se forme quand l'eau se retire. Les touristes, inconscients du danger, s'y aventurent. Mais lorsque la marée monte, tout va très vite. Le capitaine Thomas Blampin, pompier, était chef de bord sur l'opération de sauvetage.
On ne le voit pas tout de suite, mais il y a un bras qui se forme devant eux. Et après, quand ils essayent de traverser ce bras, ils ont de l'eau jusqu'à la taille, voire au-dessus. Donc, ils ne peuvent pas traverser.
Le groupe de 60 personnes est donc pris au piège. Les sauveteurs, à l'aide de bateaux et de paddles, enchaînent les allers-retours pour les récupérer. Des moyens aériens sont même engagés.
On a un hélicoptère de 10-50 qui nous a aidés également sur le dispositif. Il y a eu une dizaine de personnes qui ont été élitreuillées également sur le sauvetage.
Le pire a été évité selon la protection civile, mais à chaque épisode de chaleur, c'est la même chose, déplore Anthony Trahan, chef de service maritime des pompiers dans le Pas-de-Calais.
Les beaux jours attirent des personnes qui ne sont pas forcément des locaux, qui n'ont pas conscience du risque. Quand on vient à la plage et qu'on n'est pas habitué, on se renseigne un petit peu sur les risques présents.
Le pompier rappelle les bonnes habitudes. Avant d'aller à la plage, on vérifie toujours les horaires et les coefficients des marées.
L'Assemblée nationale donne son feu vert pour accorder à la Corse un statut d'autonomie dans la République. C'est la première étape pour ce projet de loi qui doit maintenant être examiné au Sénat. Un des dossiers du jour à l'Assemblée, ce sera la toute dernière ligne droite pour la proposition de loi visant à limiter les importations de produits, la fast fashion, comme on dit, proposition faite il y a 2 ans.
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Il est 8h35 sur RMC et Didier Deschamps est rentré en France.
Alors je crois qu'il est 6h35 précisément, mais le sélectionneur Didier Deschamps a eu la douleur d'apprendre le décès de sa mère. C'était quelques heures après la victoire des Bleus contre l'Irak. Il sera pas présent pour le troisième match vendredi contre la Norvège. Didier Deschamps, donc, qui est en France en ce moment. Cette nuit, la Colombie s'est qualifiée pour les 16e en battant la République démocratique du Congo 1-0. Plutôt victoire de la Croatie contre le Panama 1-0. Du Portugal, carton 5-0 contre l'Ouzbékistan, doublé de Ronaldo. Et nul, aussi 0-0 entre l'Angleterre et le Ghana. C'était la fin, donc, cette nuit de la deuxième journée de la phase de poule. On va attaquer la troisième, le Brésil, la nuit prochaine contre l'Écosse, avec sûrement le retour de Neymar. Blessé lors des deux premiers matchs, les Brésiliens attendent ça, nous dit Jérôme Sillon.
Dans la touffeur de Miami, sous 35 degrés et par 80% de taux d'humidité, ils sont des centaines chaque jour à se retrouver à la Casa Ronaldo, dans le quartier de Wynwood Walls. Maillot vert et jaune sur le dos, Carlos clame son amour pour Neymar.
On l'aime encore, certains non, mais dans l'ensemble, on l'aime encore. Surtout moi, parce que je suis supporter de Santos. Tout le monde est excité à l'idée de le voir jouer.
2 ans et demi que Neymar n'a pas évolué avec le Brésil, entre blessures et méformes. Klauber est supporter de Fortaleza, mais il sait que l'attaquant de Santos est un joueur différent.
Neymar est génial. Les autres joueurs sont excellents, mais lui, c'est un génie. Il est né comme ça, c'est un don de Dieu.
La convocation du meilleur buteur de l'histoire de la Seleção avec 79 réalisations avait créé des polémiques sans fin au Brésil. Mais pour Marcos, muscle saillant sous son débardeur Oriverde, il n'y a pas débat.
Le Brésil ne pouvait être champion du monde que si Neymar était sélectionné. Il est du niveau de Ronaldo ou Ronaldinho, même à 50% de ses moyens physiques ou sur une jambe, c'est le meilleur joueur de l'équipe.
Plus que pour le match de l'Écosse, c'est à partir des 16e de finale que Neymar devrait monter en puissance, avec pour ultime but le 6e titre de champion du monde du Brésil.
Le Quintet, Quentin, c'est à Cherbourg.
À 18h30, le 15, le 17, prono de la Dream Team aujourd'hui, 15 en favori, Jipette de Crépin, le 17 en outsider, Isis Derfray.
Regarde, merci Quentin Vinet, c'était le journal de 6h30 et pas à 8h30, je me suis un peu trompée tout à l'heure, j'ai pris de l'avance. C'est-à-dire qu'il fait très chaud quand même, on a l'impression que la journée a déjà filé.
8h30 de
voire plus. Hein,
voire bien plus. Julien, tu es à Montpellier dans l'Hérault, il doit faire chaud à Montpellier. Bonjour Julien.
Oui, bonjour Mathieu, bonjour.
Vous avez répondu à notre appel parce que vous êtes infirmier et vous travaillez dans l'hospitalier. Julien, très concrètement, on a les hôpitaux qui sont en surchauffe, c'est quelque chose que vous observez?
Alors moi je travaille en clinique privée, on a la clinique. Mais dans beaucoup d'hôpitaux, il y a la pluie. Mais après, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des systèmes généraux. Ça gère autant le froid que le chaud. Et ça gère plusieurs services. Donc, c'est un thermostat. On peut pas non plus tout le temps... Et souvent, moi, je vois les patients, c'est les plus âgés. Dès qu'on met la clim, ils ont froid.
Mmh. Oui, mais alors, en ce moment, pardonnez-moi, mais...
Ils nous disent, on se gèle. Mais bon, donc, c'est compliqué à gérer, hein.
Oui, oui, bien sûr. Alors évidemment que si en plus chacun y va de sa petite demande de clim et que c'est un système général, c'est plus compliqué. Cela dit, en ce moment, il ne s'agit pas uniquement de confort, il s'agit aussi de sécurité.
Ah oui, non, mais je suis entièrement d'accord. Après, les personnes âgées, c'est pas de pas avoir la clim ou pas qui les tue, c'est la déshydratation au premier lieu.
Il y a plus de monde, Julien, ces derniers jours?
Non, ça va, parce que nous, on les force un peu à boire. Bon, nous, ils sont en restriction hydrique, donc c'est un peu plus compliqué, mais il faut quand même qu'ils s'hydratent. Mais après, il y a des gens qui veulent mettre des clims dans chaque chambre. Il faut savoir ce que ça coûte dans un hôpital. Hein. Et il ne faudra pas pleurer qu'on paye trop d'impôts. Hein.
Ah oui, vous voulez dire le
Ah oui, des clims dans chaque chambre, pourquoi pas. Mais et après, sur une chambre de patients, qui va gérer la clim? À qui on va confier? Déjà qu'on sait, et en plus, déjà qu'on s'est piqué les télécommandes des télés, je vous dis pas qu'on va se faire piquer en télécommande de clim.
Julien, pardonnez-moi, mais... parce que vous parlez d'un secteur très sérieux, vous êtes en clinique et vous parlez de santé, mais c'est vrai que les télécommandes de télé, les télécommandes de clim, on connaît ça ici aussi.
Bah oui, ça reste aussi RMC, on
vous rassure,
Julien.
Dans toutes les structures où il y a un chauffage ou un rafraîchissement collectif, Julien, donc ça nous a tous fait tiquer, la télécommande de clim, on connaît, Julien. Merci de votre appel. Bon courage, Julien.
Merci, bon courage à vous. Bonne
merci,
journée.
Infirmier dans une clinique donc climatisée, mais avec une question qui est posée, cela dit, qui a la télécommande?
Chez nous, c'est
Élise. Je tiens à le préciser.
Mais moi, je la vole pas.
C'est Élise qui a le contrôle. Oui, enfin, qui s'en approche, le père de
c'est moi qui ai la charge mentale, surtout.
6h40, merci Julien.
Allez, à suivre, les voitures neuves qui sont de plus en plus grosses. Conséquence, le stationnement se complexifie en ville. Et alors, à l'horizon 2040, les répercussions sur la sécurité routière pourraient être encore plus importantes.
Bonjour Nicolas Raffin.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole de Transport et Environnement France. L'ONG que vous représentez publie aujourd'hui ce rapport sur l'augmentation de la taille des voitures. Et dans un instant, vous nous direz pourquoi c'est, selon vous, une catastrophe pour les centres-villes.
Et puis elle est là, la bande du morning au complet ce matin. La causerie, Virginie Fulpin.
Les stars de la Coupe du Monde battent des records en pagaille, mais que valent vraiment ces records?
Et puis Anthony Morel pour C'est déjà demain.
Alors on connaissait les gens qui parlent à leurs chiens.
Oui.
Maintenant les chiens vont vous répondre.
Ça existe déjà.
Oui, voilà. Virginie et moi, on va être sur une team de. Bah, ils nous répondent déjà. Bon,
allez,
vous allez voir que ça va vous plaire. Ouais. 6h41.
Jusqu'à 7h.
5-7. Le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 6h44 sur RMC et RMC Story. On parle de nos voitures ce matin. Nos voitures qui sont de plus en plus imposantes. Plus 1,2 cm en longueur chaque année. Ça, c'est depuis les années 2000. Et c'est ce que révèle une étude de l'ONG Transport et Environnement publiée aujourd'hui. Une augmentation qui pourrait avoir des conséquences sur l'espace public dans les prochaines années.
Et on va justement explorer ces conséquences avec vous. Nicolas Raffin, porte-parole de Transport et Environnement France. Bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, les voitures neuves mesurent 4,38 m de long pour 1,82 m de large. Si on continue comme ça, vous dites qu'on atteindra 4,56 m de long et 1,90 m en 2040. Est-ce qu'on pourra encore circuler en ville?
On pourra encore circuler, mais ça posera des problèmes parce que on pourra de moins en moins se garer facilement. Et puis, ça posera aussi des problèmes pour les autres usagers de la route, notamment les piétons, les cyclistes, qui feront face en fait à des véhicules beaucoup plus lourds, beaucoup plus imposants et qui donc auront beaucoup plus de risques en cas d'accident.
Donc, il faut que les municipalités s'adaptent dès maintenant, non ?
Alors, il y a plusieurs choses. Hein. Quand on parle de la taille des véhicules, les municipalités ne peuvent pas elles seules décider de réduire la taille des véhicules. Elles peuvent décider de mettre en place un prix du stationnement différencié suivant la dimension des véhicules.
Ce qui existe à Paris notamment.
Oui, alors à Paris, à Lyon, à Bordeaux, c'est en fonction du poids, mais on peut imaginer des modalités différentes, surtout que maintenant, le système d'immatriculation des véhicules permet de connaître chaque véhicule de façon automatique. Le niveau des dimensions, ça va surtout se jouer au niveau de l'Europe, puisque c'est elle qui peut donner un peu le tempo, justement, des dimensions aux constructeurs.
Mais comment est-ce qu'on explique cette... hausse exponentielle de la taille des véhicules. Nos véhicules ont changé et on achète vraisemblablement plus que des véhicules un peu imposants.
Alors oui, quand on dit on achète, c'est surtout les constructeurs en fait qui sont, j'allais dire, à la manœuvre, puisque depuis plusieurs années, on le constate tous, il y a une tendance à la SUVification du parc avec des véhicules toujours plus hauts, toujours plus larges. Et c'est pour une bonne raison, puisque pour les constructeurs, un véhicule de type SUV en fait est beaucoup plus rentable à l'unité qu'une citadine, par exemple. Donc les constructeurs se sont tous un peu positionnés sur ce créneau, on va dire, plus haut de gamme et avec des véhicules plus gros. Mais on voit qu'on arrive un peu au bout de cette logique aujourd'hui, puisque vous avez un peu une stabilisation des ventes du neuf. En tout cas, on n'a pas retrouvé les volumes d'il y a quelques années. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez des modèles qui sont pas des SUV qui aujourd'hui marchent très bien. Donc ça montre bien qu'il y a une vraie demande pour des modèles qui sont moins gros. Et pour nous, il faut aller plutôt dans ce sens-là.
Nicolas Raffin, on a parlé de la problématique que ça pose en termes d'aménagement dans les villes, pour le stationnement notamment, mais vous dites aussi que ça pose une question de sécurité. D'après vos projections, vous parlez de 2500 décès supplémentaires chez les adultes, 79 chez les enfants en Europe d'ici à 2040.
Oui, exactement. En fait, on a fait ce calcul parce que, en considérant que plus les véhicules allaient être gros et hauts, surtout avec la hauteur de capot, plus en cas de choc, vous avez de risques d'avoir des blessures mortelles. Et pour ça, on se base sur une étude qui a été menée en 2023 en Belgique sur un grand nombre de collisions et qui montre qu'en fait, vous avez 27% de risque en plus d'avoir des blessures mortelles si la hauteur du capot est plus élevée que la moyenne. Donc c'est pour ça qu'on dit que si les dimensions des véhicules continuent à augmenter, on a aussi un risque pour la sécurité routière.
Jérémy est en ligne avec nous. Votre étude l'a interpellé. Jérémy qui nous appelle du Bourdoisan en Isère. Bonjour Jérémy.
Bonjour tout le monde.
Jérémy, vous avez fait cette expérience, si j'ose dire, ce week-end. Vous êtes posé la question de la taille des véhicules.
La réflexion, parce que justement, le sujet, c'est un truc de fou, parce que c'est exactement la réflexion que je me suis fait ce week-end à ma femme. J'ai passé un petit week-end en Ardèche, à côté du village de Larnas, et on a traversé ce petit village qui est hyper étroit. Et j'ai croisé des gens avec, pour pas citer la marque, une Volkswagen Golf. Et ma femme, qui voyait la femme en face, pas pour juger, qui ne savait pas traverser le village sans, elle ne savait pas traverser correctement et croiser. Et elle me dit, mais c'est pas possible, les gens ne savent pas conduire. Je lui ai dit, mais tu imagines qu'il y a 30 ans, sur ce village-là, c'était pas un village qui était adapté à notre type de véhicule, qu'on roulait en 4L ou en 2 chevaux, et qu'aujourd'hui, une Clio, c'est la taille d'une 405 des années 90.
Ouais, non, vous avez raison. C'est concrètement les villes. On va pas refaire tous les vieux villages de France pour laisser passer les SUV, Nicolas Raffin.
Bah, c'est exactement ça en fait. Nous on considère que aujourd'hui on atteint quand même une taille maximale de ce que peuvent supporter les villes. Et on parle pas que des métropoles. Hein. Votre auditeur a tout à fait raison. Ça concerne aussi toutes les villes, tous les villages. Donc on considère qu'aujourd'hui c'est plutôt à la voiture en fait de s'adapter à la ville. On n'a pas besoin d'avoir des voitures qui font 2 mètres de large en fait pour pouvoir rouler confortablement.
Merci beaucoup Nicolas Raffin. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ONG Transport et Environnement France à l'origine de cette étude ce matin. Et merci beaucoup à Jérémy, notre auditeur, qui a composé le 32-16 pour témoigner ce matin. Il est 6h49.
Et la bande est déjà là, mais avant de retrouver Virginie et Anthony, les grands titres de l'actualité ce matin.
Et une nuit encore étouffante, quasiment 31 à Biscarrosse, 29 à La Rochelle et Poitiers, au lendemain de la plus chaude journée de l'histoire de France. Record qui risque à nouveau d'être battu aujourd'hui, avec 58 départements désormais en alerte rouge à la canicule. Sébastien Lecornu annonce qu'une loi intégrale sur les violences sexuelles faites faites aux femmes et aux enfants sera examinée à la rentrée à l'Assemblée nationale. Conséquence notamment de l'affaire Liana. Et puis Didier Deschamps, endeuillé. Il doit rentrer en France pour enterrer sa mère. Le sélectionneur des Bleus ne sera pas présent vendredi pour le match de l'équipe de France face à la Norvège.
Il est 6h50. Et c'est l'heure de retrouver donc la bande. Virginie Fulpin, la causerie. Alors on n'a pas encore fini la phase de poule de cette Coupe du Monde, mais on voit déjà les stars de l'attaque en haut de l'affiche. Messi, Mbappé, Haaland, et les records tombent et qui vont encore tomber, Virginie.
Et attention, il est là aussi, hein. Cristiano Ronaldo s'est assis autour de la table hier soir grâce à son doublé avec le Portugal contre l'Ouzbékistan. Il ne faudra pas l'oublier, il devient le premier joueur à avoir marqué au moins un but lors des six Coupes du Monde. Ça, c'est son record à lui, alors que Lionel Messi, lui, a battu le record de l'Allemand Miroslav Klose. L'Argentin en est à 18 buts en Coupe du Monde. C'est sa sixième aussi. Jamais personne n'avait autant marqué. Mais Kylian Mbappé est dans la course. Vous le savez, 14 buts en, allez, deux Coupes du Monde, un quart, en gros. Pour être plus clair, 14 buts en 15 matchs de Coupe du Monde. C'est stratosphérique. Et c'est pas fini. On est encore dans la phase de poule.
Et le record de Just Fontaine de 13 buts en une Coupe du Monde peut tomber cette année.
Bah regarde, en deux matchs, Lionel Messi en est à 5 buts. Kylian Mbappé et Erling Haaland, le Norvégien, à 4. On peut ajouter l'Anglais Harry Kane et Cristiano Ronaldo avec un doublé chacun. Les stars brillent et marquent dans cette Coupe du Monde. Bah, donc oui, ils peuvent viser le record de Just Fontaine qui semblait jusque-là totalement inaccessible. Mais est-ce qu'on peut vraiment comparer ? En 1958, Just Fontaine a marqué ses 13 buts en 6 matchs seulement. Il y avait 16 équipes à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, elles sont 48. Alors forcément, bah, plus il y a de matchs, plus il y a de chances de marquer. Hein. Et puis avec cette compétition à 48 équipes, on peut le dire, il y a quand même certaines oppositions qui sont très faibles. Contre le Portugal hier, l'Ouzbékistan, franchement, c'était pas le haut du panier. Alors, après le match nul du Portugal contre la République démocratique du Congo, tout le monde critiquait Cristiano Ronaldo. Là, un doublé contre l'Ouzbékistan, il est redevenu tout beau. C'est quand même surtout que l'équipe en face était mauvaise. On dirait presque que la FIFA a élargi la Coupe du Monde pour permettre aux stars de briller et de faire tomber des records.
Et puis alors, on porte peut-être plus d'attention aux statistiques individuelles aujourd'hui qu'avant.
Ah oui, l'Argentine a une équipe très forte, on va pas le nier, mais celui à qui tous les joueurs veulent donner le ballon, c'est Lionel Messi, parce que c'est lui qui peut faire basculer une rencontre, oui, mais aussi pour qu'il soigne ses stats. Son but, c'est de marquer l'histoire avec son équipe, mais aussi, je dirais pas surtout, mais c'est là quand même individuellement, parce qu'il y a une rivalité entre les attaquants stars des différentes nations. Alors, c'est une rivalité assez saine, hein, pas de problème, mais la philosophie, c'est pas du tout la même que dans les années 50, et c'est bien normal. Bon. Et puis on va le dire, si Just Fontaine doit être effacé des tablettes, autant que ce soit par Kylian Mbappé, non, c'est à nous ce record, non ?
Enfin bon, ça reste à nous. Bien vu Virginie Fulpin.
Il est 6h53 et Anthony, aujourd'hui tu nous parles d'un objet connecté dans C'est déjà demain, objet connecté qui fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, un collier qui permettrait de communiquer avec son chien ou son chat.
Exactement. Le waf waf, ça veut dire je veux des croquettes, voilà. et pas les low cost de la dernière fois. Hein. La bonne marque, celle au bœuf, pas celle au poulet. J'exagère à peine, mais c'est presque ça en fait, la promesse du Petit Chat. C'est le nom de ce collier connecté qui est commercialisé par une start-up chinoise, alors qui fait fureur sur les réseaux sociaux. En gros, la promesse de ce collier, c'est de pouvoir traduire en mots les aboiements de votre chien ou les miaulements de votre chat. C'est Google Trad pour les labradors, quoi, d'une certaine manière. Donc en gros, à chaque fois qu'il y a un aboiement, vous recevez sur votre téléphone et ben la retranscription textuelle de ce que le chien a dit.
J'ai faim, hein. Voilà, j'ai faim, hein.
Alors ça peut être beaucoup j'ai faim, ça peut être j'ai envie de jouer. Alors voilà, l'entreprise se vante d'un taux de précision de 92% sur une étude qu'elle a menée elle-même selon une méthodologie qui reste assez floue, on va pas se mentir. Très clairement, ça sent l'enfumage assez fortement.
Ah ouais. Mais souvent, vous venez nous vendre des trucs incroyables en nous disant mais si, c'est sérieux.
Non, mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'il y a des vétérinaires. On a envie d'y croire. Et c'est un peu ça, si vous voulez. C'est que les maîtres de chiens, de chats, évidemment, ils ont envie de communiquer avec leurs animaux de compagnie. Mais ce que disent les vétérinaires et les spécialistes du langage qui ont été interrogés sur ce collier, c'est qu'évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça et que les chiens et les chats ne discutent pas en sujet-verbe complément, que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Et autant on peut détecter des états de stress, des états émotionnels, l'envie de jouer, ce genre de choses, autant retranscrire textuellement et en phrase ce que le chien aboie, ça n'a pas tellement de sens en réalité.
Bon, mais l'idée derrière, c'est quand même de mieux comprendre nos animaux grâce à l'IA, et ça, c'est pas complètement absurde.
Non, exactement. Et pour le coup, il y a des travaux de recherche extrêmement sérieux dans des revues scientifiques à comité de lecture où on est capable effectivement de créer ce qu'on pourrait dire une communication interespèce, mais de manière très très balbutiante. Par exemple, Google travaille sur un modèle de langage, une intelligence artificielle qui permettrait de communiquer avec les dauphins. Les dauphins ont un langage qui est très évolué, c'est l'un des animaux les plus intelligents, vous savez.
Que les cachalots ont un accent.
Ah bon?
Ouais.
Ah, ils ont des accents.
Les baleines et les cachalots ont des accents selon où ils sont.
Vous pouvez
sur
faire le cachalot marseillais?
Non, non, mais c'est...
Je me lancerai pas là-dessus. Bon, en tout cas, les dauphins, alors je sais pas s'ils ont des accents, mais ils ont un langage qui est très évolué et on est capable, en fait, de le décrypter. Et là encore, ça pourrait être intéressant, eh bien, pour, par exemple, comprendre pourquoi des populations de dauphins, ah, vous faites pas très bien le dauphin, se déplacent d'un endroit à un autre, s'ils sont en stress à cause de, je sais pas, l'installation d'une plateforme pétrolière à proximité, ce genre de choses. On analyse aussi le vocabulaire et le langage des porcs dans les élevages. Ça, c'est très très important, ne rigolez pas, parce que ça permet eh bien, de comprendre là encore leur niveau de stress, et pour le bien-être animal dans les élevages, ça pourrait être essentiel dans les années qui viennent.
Merci Anthony Morel. Bonjour Apo.
Ça va, c'était bien?
C'était super.
Ah là là là, là, il revient du Hellfest, il est là avec
en
nous.
En pleine forme.
Salut à tous, je prends le relais dans un instant. Après cette nuit tropicale, les parcs sont ouverts dans plusieurs grandes villes et on a même vu des habitants tenter d'y dormir, réussir parfois. Et vous, dites-nous comment vous vivez tout ça. Hier, journée record, 42 degrés à Bordeaux, 41 à Rennes, et ça va continuer aujourd'hui. Je vous attends pour témoigner et réagir au 32-16 et sur le WhatsApp 06-12-424-424. À tout de suite.
5-7, le Morning RMC.